Il y a presque une cinquantaine d'années, le gouvernement français a confié aux urbanistes le soin de construire de toutes pièces des villes dites « nouvelles ». J'en connais une qui s'appelle l'île d'Abeau, à environ 30 km de Lyon, et qui fut inaugurée en 1970. Elle a été conçue clé en main, pour ainsi dire, avec commerce et maisons de quartier, et le plan d'occupation des sols avait même prévu des terrains pour des lieux de culte. Ensuite, on a prédéterminé les endroits où sont bâtis les appartements locatifs et les maisons individuelles. Vu la situation privilégiée de l'île d'Abeau, relativement proche de Lyon, il n'a pas été difficile de trouver du monde pour la peupler. De nos jours, beaucoup de gens souhaitent habiter dans les grandes villes ou leurs banlieues. Si aujourd'hui on se bouscule pour vivre dans Jérusalem, comme dans toutes les grandes villes, il n'en est pas toujours été ainsi. Après le retour d'exil du peuple juif, et une fois les murailles d'enceinte reconstruites sous la conduite de Néhémie, il restait à trouver les familles pour la peupler. Mais comme le septième mois, qui est une époque de rassemblement obligatoire, est arrivé, il a d'abord fallu célébrer la fête des trompettes qui coïncide avec le nouvel an de l'année civile. Puis, la fête des cabanes, pendant laquelle la loi de Moïse est lue au peuple par le prêtre Esdras et expliquée par les Lévites, ce qui suscite un renouveau spirituel remarquable. Cette lecture a une telle influence sur les Israélites qu'elle conduit à une très longue prière de repentance où tous, grands et petits, reconnaissent leurs fautes devant l'Éternel et s'engagent par serment à obéir désormais à la loi. Tout est bien qui finit bien. Pas tout à fait. Comme je l'ai déjà dit, il reste encore à peupler la ville de Jérusalem, nouvellement protégée par la reconstruction de la muraille d'enceinte. Il est en effet nécessaire de la pourvoir d'un nombre suffisant d'hommes capables d'en assurer la garde et la défense si besoin est. Maintenant que les solennités du septième mois sont terminées, ce problème va être abordé par les responsables du peuple. Je commence à lire le chapitre 11 du livre de Néhémie en compressant tout au long. Les chefs du peuple s'installèrent à Jérusalem. Pour le reste du peuple, on tira au sort pour faire venir s'établir à Jérusalem, la ville sainte, une famille sur 10. Les 9 autres pouvaient rester dans les autres localités. Néhémie, chapitre 11, verset 1er. C'est le jeu du hasard qui force certaines familles à s'établir dans la ville sainte, ainsi appelée parce que c'est là qu'est construit le temple qui abrite le coffre sacré. Mais Jérusalem n'est désignée comme telle que dans les livres de Néhémie, Ésaïe et Daniel. Je continue. Certains hommes s'offrirent volontairement pour habiter à Jérusalem. Leurs compatriotes les bénirent. Néhémie, chapitre 11, verset 2. Les riches ont tout à gagner à vivre dans la ville fortifiée, car ils font cultiver leurs terres par des frères indigents. Mais pour les petites gens, habiter Jérusalem, c'est la galère, parce que ça les éloigne de leur terre. Alors tant mieux, et longue vie aux volontaires. Je continue. Dans les villes de Juda habitaient les Israélites, les prêtres, les Lévites, les desservants du temple et les descendants des serviteurs de Salomon, chacun dans sa propriété et sa ville respective. Néhémie chapitre 11, verset 3. Suivent alors les noms de ceux qui sont venus s'installer à Jérusalem. La liste qui est tirée d'un registre officiel n'est pas inclusive, car Néhémie ne retient que les personnages influents. Je continue plus loin. Le reste des Israélites, ses prêtres et des Lévites étaient établis dans toutes les villes de Juda, chacun dans son patrimoine. Les desservants du temple habitaient le quartier de Lophel. Néhémie chapitre 11, les versets 20 et 21. Les desservants du temple sont chargés des corvées. Ils sont nombreux car avec leurs familles, cela faisait une population d'environ 20 000 personnes. Contrairement aux Israélites disséminés, les desservants habitent tous Jérusalem. Je continue. Ils étaient soumis à des ordonnances royales qui réglaient leur activité jour par jour. Petaïa était le délégué du roi pour toutes les affaires civiles. Néhémie chapitre 11, les versets 23 et 24. Tout le fonctionnement des rapatriés juifs est soumis aux ordonnances du pouvoir impérial perse. Mais il est bienveillant. Darius Ier avait déjà montré son intérêt pour le culte israélite, tout comme ici Artaxerces. Je continue et finis le chapitre 11. D'autres membres de la tribu de Juda s'établirent dans les localités de la campagne. Ils occupèrent aussi toutes les régions depuis Beersheba jusqu'à la vallée d'Hinnom. Néhémie chapitre 11, les versets 25 à 30. Les membres de la tribu de Juda s'établirent dans 17 bourgs. Il faut se représenter chacune de ces localités comme un chef-lieu de canton entouré d'un territoire sur lequel se trouvent des villages de moindre importance appelés « filles du bourg central ». Les Israélites occupent donc le sud de la Judée, de la banlieue de Jérusalem jusqu'à Beersheba, 50 kilomètres plus loin. Des fouilles archéologiques ont révélé que la ville de Beersheba fut détruite par les Assyriens en 701 avant Jésus-Christ et reconstruite par les Perses environ 2 siècles plus tard. Jérusalem est à l'extrême sud du territoire de Benjamin. Mais les membres de cette tribu sont allés s'installer dans les bourgs du nord. Le reste du chapitre donne la liste de ces bourgs, mais je vous en fais grâce. Nous arrivons au chapitre 12 qui continue la liste de ceux qui sont revenus en Juda. Je commence à lire en compressant tout au long. Voici la liste des prêtres et des lévites qui revinrent de l'exil avec Zorobabel et avec Josué. Néhémie, chapitre 12, verset 1er. C'est David qui avait établi l'ordre de rotation des 24 classes sacerdotales au service du temple. Néhémie dresse la liste de 22 chefs de famille de prêtres qui sont revenus au pays avec Zorobabel. Puis sont énumérés les lévites et les grands prêtres depuis le retour de l'exil. Je continue le texte plus loin. Lors de l'inauguration de la muraille de Jérusalem, on fit venir les Lévites à Jérusalem de toutes les localités où ils habitaient afin de célébrer l'événement dans la joie par la louange et par le chant des cantiques accompagnés par les cymbales, les luttes et les lyres. Les musiciens se rassemblèrent du district des alentours de Jérusalem ainsi que des environs, car ils s'étaient construits des villages autour de Jérusalem. Les prêtres et les Lévites accomplirent les rites de purification, tant pour eux-mêmes que pour le peuple, pour les portes et pour les murailles. Néhémie chapitre 12, versets 27 à 30. Au dire de certains commentateurs, nous sommes le 27e jour du 9e mois de l'an 458, soit 3 mois après la fin des travaux. Cette dédicace des murs de Jérusalem a fourni l'occasion d'une immense fête. Une foule de gens et de musiciens de tout le pays est venue en ville pour cette célébration. Mais avant toute réjouissance en l'honneur de l'Éternel, il est indispensable de purifier rituellement aussi bien les personnes que les objets. Sans animaux sacrifiés sur l'autel des holocaustes, Dieu n'agrée pas les festivités qui se seraient alors qu'un vulgaire tapage. Si du sang n'est pas versé pour couvrir les péchés, la bonne volonté, les prières et les actes religieux ne sont que des simagrées aux yeux de l'Éternel. Chaque fois que l'homme veut s'approcher du Dieu trois fois saint, il doit d'abord régler le problème de son péché. Je continue en compressant. Je fis monter sur la muraille les chefs de Juda et je formai 2 grands corps. Le premier se dirigea du côté droit et marcha sur la muraille vers la porte du fumier. Derrière les choristes venait la moitié des chefs de Juda. Puis venaient les prêtres munis de trompettes qui jouaient des instruments de David. Esdras, le spécialiste de la loi, était à leur tête. Ils continuèrent jusqu'à la porte des eaux du côté oriental de la ville. Le second chœur partit vers la gauche. Je les suivis avec l'autre moitié du peuple sur le haut de la muraille. On s'arrêta à la porte de la prison. Les deux chœurs prirent place dans le temple de Dieu. Les musiciens faisaient résonner leurs cantiques. Néhémie chapitre 12, versets 31 à 42. C'est là qu'une petite vidéo expliquerait bien mieux que des mots le déroulement de la fête. Néhémie rassemble deux grands corps qui partent de la porte de la vallée, au sud-ouest de la ville, et qui marchent sur la muraille en sens inverse. Une procession se dirige vers la porte du fumier à l'extrême sud-est de l'enceinte, puis remonte le mur oriental. L'autre procession va dans le sens contraire. Les deux corps chantent les louanges de Dieu et se rejoignent entre les portes des eaux et celles de la prison pour entrer ensuite ensemble dans le parvis du temple. Je finis le chapitre 12. Les gens offrirent ce jour-là de nombreux sacrifices car Dieu leur avait accordé un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants prirent part aux réjouissances et l'on entendait de loin les cris de joie qui retentissaient à Jérusalem. À cette époque, des hommes furent préposés à la surveillance des salles où étaient entreposées les offrandes et les dîmes. On les chargea d'y recueillir les parts attribuées par la loi aux prêtres et aux lévites provenant des champs qui entouraient la ville. En effet, le peuple de Juda se réjouissait de ce que les prêtres et les lévites étaient en fonction, de ce qu'ils assuraient le service de leur Dieu et accomplissaient les rites de purification, et de ce que les musiciens et les portiers assumaient leurs fonctions conformément aux instructions de David et de son fils Salomon. Néhémie, chapitre 12, les versets 43 à 45. Tout le monde est dans la joie, car le culte de l'Éternel fonctionne parfaitement bien. Voyant cela, le peuple paie volontiers toutes les dîmes et autres redevances obligatoires selon la loi. Nous arrivons au chapitre 13. Néhémie a gouverné la Judée pendant 12 ans, qu'il a mis grandement à profit. Après avoir rebâti les murailles de la ville sainte, il a organisé la nation juive et rétabli le fonctionnement du culte. Il repeuple Jérusalem et d'autres villes. Il dirige la dédicace de la muraille et réorganise la collecte des offrandes et des dîmes. Il dresse également la liste de ceux qui ont marqué son époque. Ces suites de noms sont rébarbatives pour nous, mais elles présentent un intérêt historique certain. Après tous ces accomplissements, Néhémie retourne en Perse faire son rapport à l'empereur. Mais pendant son absence de plusieurs années, l'état spirituel du peuple juif se dégrade gravement. Ce qui fait qu'à son retour à Jérusalem, une tâche ardue l'attend. C'est ce que raconte le dernier chapitre du livre de Néhémie que je commence à lire en compressant. À cette époque, au cours d'une lecture du livre de Moïse en présence du peuple, on y trouva écrit que ni l'Ammonite ni le Moabite ne seraient jamais admis dans la communauté de Dieu. Dès que l'on eut entendu le texte de cette loi, on exclut tous les étrangers de la communauté d'Israël. Néhémie, chapitre 13, verset 1er. Dès son retour en Judée, Néhémie fait lire la loi, le livre du Deutéronome, chapitre 23, les versets 3 à 5, pour être exact, ce qui produit un effet immédiat sur le peuple. Je continue plus loin. Avant cette décision, le prêtre Eliashib, chargé de la responsabilité des salles du temple et proche parent de Tobia, avait mis à la disposition de ce dernier une grande chambre. Néhémie chapitre 13, verset 4. La conduite du grand prêtre est scandaleuse. Il s'est opposé aux réformes de Néhémie et il ne fait pas partie des signataires du serment d'allégeance à l'Éternel. Par contre, il a introduit un loup dans la bergerie. Étant parent par alliance avec le sinistre Ammonite Tobia, il lui a fait construire un gentil petit appartement dans les annexes du temple. Je continue plus loin. J'étais absent de Jérusalem quand cela eut lieu, car j'étais retourné auprès d'Artaxerxès en 433. À la fin de l'année, je sollicitais de l'empereur un nouveau congé et je retournais à Jérusalem. Là, je me rendis compte du mal qu'avait fait Eliashib. J'en fus très irrité, et je jetai hors de la pièce tous les objets qui appartenaient à Tobia. Puis je donnai ordre de procéder au rite de purification pour les salles, et j'y fis remettre les objets du temple. Néhémie chapitre 13, les versets 6 à 9. Néhémie exprime son indignation et passe à l'action. Conformément à la loi, il expulse Tobia et fait procéder à la purification cérémonielle de toutes les salles occupées par ce renard. Cet incident rappelle Jésus qui a jeté les marchands et les changeurs de monnaie hors du temple. Je continue. J'appris aussi que les parts des Lévites ne leur avaient pas été remis et qu'ils s'étaient retirés chacun sur ses terres. Aussi, je fis des reproches aux chefs du peuple, je leur dis, « Pourquoi le temple de Dieu est-il laissé à l'abandon ?» Je rassemblai les Lévites et les musiciens et je leur fis reprendre leurs fonctions. Alors tout le peuple de Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile. Néhémie chapitre 13, les versets 10 à 12. Cette situation est étonnante parce que les responsables du peuple s'étaient formellement engagés devant l'Éternel disant « Nous ne négligerons pas le temple de notre Dieu ». Néhémie chapitre 10, verset 40. Mais ce furent des paroles en l'air, ne recevant plus de salaire. Les Lévites ont déserté leur poste afin de pourvoir leur subsistance en cultivant leurs terres. Leur situation précaire, dépendante du bon vouloir de leurs compatriotes, explique pourquoi peu d'entre eux sont revenus de Perse. Néhémie claque du fouet et remet les pendules à l'heure. Je continue. Je confiai l'intendance des magasins au prêtre Shelemia, aux spécialistes de la loi de Tsadok et à Pédaïa, l'un des Lévites. Je leur donnai pour les assister Anam, car c'étaient tous des hommes que l'on considérait comme dignes de confiance. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, pour tout cela, et n'oublie pas tout ce que j'ai fidèlement accompli pour ton temple et pour son culte. Néhémie chapitre 13, les versets 13 à 14. Néhémie invoque Dieu et sa bénédiction sur lui et tout ce qu'il fait. Sensible au qu'en dira-t-on, dans les questions d'argent, il confie l'intendance à quatre hommes de confiance, un prêtre, un théologien, un lévite et un homme du peuple. Plus tard, l'apôtre Paul agira de même. Je continue. À la même époque, je remarquai en Juda un jour de sabbat. Des gens qui foulaient du raisin au pressoir, d'autres qui rentraient des gerbes, les chargeaient sur des ânes et transportaient toutes sortes de fardeaux pour les mener à Jérusalem en plein jour de repos. Je leur fis des reproches. Il y avait aussi des gens de Tyr qui s'étaient installés à Jérusalem. Ils y faisaient venir du poisson de toutes sortes d'autres marchandises pour les vendre aux Judéens et à Jérusalem le jour du sabbat. Je fis des reproches aux notables de Juda et je leur dis, « C'est exactement ainsi que vos ancêtres ont agi, et c'est bien à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville, et vous. Par votre manque de respect du jour du sabbat, vous allez encore aggraver sa colère contre Israël. » Puis je donnai ordre de fermer les portes de Jérusalem dès la tombée de la nuit, avant le début du jour du sabbat, et j'interdis de les rouvrir avant que ce jour ne soit passé. De cela aussi, souviens-toi en ma faveur, ô mon Dieu, et fais-moi grâce dans ton immense bonté. » Néhémie chapitre 13, les versets 15 à 22. Néhémie doit maintenant faire respecter le sabbat. Les Tyriens, gens de la mer, vendent leurs poissons salés, fumés ou séchés. C'est l'une des nourritures de base des Israélites. Ici encore, Néhémie invoque Dieu, lui demandant de le bénir et de se souvenir de tout ce qu'il a fait pour lui. Cependant, il ne considère pas sa requête comme un dû, mais comme une grâce. Je continue. À cette même époque, je constatais également que des Judéens avaient épousé des femmes étrangères. Je pris ses compatriotes à partie et j'appelai la malédiction sur eux. Je bâtis même quelques-uns d'entre eux, et je leur arrachai les cheveux, puis je leur fis prêter serment au nom de Dieu en disant, « Vous ne donnerez pas vos filles à des fils d'étrangers, et vous ne prendrez pas leurs filles, ni pour vos fils, ni pour vous-même. » N'est-ce pas précisément ce genre d'union qui a entraîné Salomon, roi d'Israël, dans le péché? Et pourtant, même lui fut entraîné par le péché par les femmes étrangères. Faut-il donc entendre dire de vous que vous commettez ce grand mal et que vous êtes infidèle à notre Dieu en épousant des femmes étrangères? Néhémie chapitre 13, les versets 23 à 27. Les problèmes se succèdent. Et Néhémie doit faire face à la même situation qu'Édras 30 ans plus tôt. La pratique des mariages mixtes risque de faire disparaître la race juive. Au grand mot, les grands remèdes. Néhémie prend des mesures énergiques. Comme Esdras avant lui, il élève un mur de séparation entre juifs et païens qui permit à Dieu d'accomplir le plan du salut pour toute l'humanité. Je continue plus loin et finis le livre de Néhémie. Souviens-toi de ces gens, ô mon Dieu, qui ont déshonoré la fonction sacerdotale de ton alliance avec les prêtres et les lévites. Je les purifiai donc de tous éléments étrangers, et je remis en vigueur les règlements que devaient observer les prêtres et les lévites, chacun dans son service. Néhémie chapitre 13, les versets 29 et 30. Même des prêtres se sont mariés avec des étrangères, ce qui est très grave au regard de la loi. Néhémie a eu un rôle décisif dans la restauration du peuple juif, aussi bien dans le domaine matériel et physique que spirituel, la purification de leur cœur s'avérant son combat le plus difficile. Mais grâce à ses interventions énergiques et à sa grande confiance en Dieu, c'est un serviteur exemplaire de l'Éternel et un modèle à suivre.